Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon saison 8, c'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans le dressing d'une toute jeune femme qui conjugue élégance et bon goût. Mathilde Gonou dirige le pôle influence d'une agence de communication et est en parallèle créatrice de contenu sur Instagram. Sa mode, une manière de s'imposer et de s'amuser avec les couleurs et les matières. Bonjour Mathilde.
Bonjour Valérie.
Alors, toi, on se connaît parce qu'on se côtoie par nos métiers et puis... Je t'ai fait venir parce que je suis toujours impressionnée par ton allure. T'es toujours très bien coiffée, très bien accessoirisée aussi. T'as toujours un look très complet, on va dire. Toujours la bonne ceinture. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va ouvrir le dressing de Mathilde. Alors, et donc, en préparant l'émission, j'ai découvert ton parcours qui est quand même assez intéressant parce que t'as pas du tout fait d'école de com.
Ouais, pas du tout. Issue de la mode. Je suis styliste modéliste de base puisque j'ai fait Esmod Lyon il y a maintenant plus de 10 ans. C'était vraiment un de mes rêves et je voulais vraiment me diriger plutôt vers la chaussure.
Oui, toi, c'est la chaussure en plus.
Exactement. Les accessoires, pour moi, ça fait toute la tenue. Donc, il n'était même pas question que je fasse du prêt-à-porter. J'aimais aussi travailler le cuir. Alors aujourd'hui, c'est mal vu. Mais
pourquoi c'est
fourrure,
mal vu ?
La fourrure, le cuir, ben, on est quand même dans une époque hyper vegan.
Oui.
Et en grande fan des animaux, enfin, je le conçois tout à fait. Mais je trouve qu'il y a un savoir-faire qui est exceptionnel quand on travaille le cuir, qu'on ne retrouve pas forcément dans le prêt-à-porter. Parce que déjà, il y a moins d'ateliers. Enfin, ça se perd de plus en plus. Donc, je m'étais dit, ça peut être
surtout
intéressant.
Surtout en France.
Exactement.
Parce que les ateliers sont au Portugal ou en Italie.
C'est ça, alors qu'on a un savoir-faire exceptionnel. Et c'est pour ça que je me suis dirigée. En fait, ma première expérience professionnelle, c'était chez Weston. Enfin, moi, j'ai eu un papa qui ne jurait que par Weston. Enfin, j'ai grandi un peu avec cette marque. Et donc, mon première expérience là-bas, donc j'étais hyper...
Je précise que c'était à Limoges, dans l'usine de Limoges.
Exactement. Donc, en fait, j'étais au bureau d'études. Donc, le bureau d'études, c'est en fait la concrétisation de la chaussure, c'est-à-dire qu'on interprète les dessins du styliste, à l'époque, Michel Perry, et on les fait devenir... Enfin, on les fait en 3D, quoi. Donc, hyper intéressant, parce qu'il y avait cette combinaison du stylisme et du modélisme. Et en fait, je suis arrivée dans cette usine où tout simplement, j'avais aussi un rythme d'usine avec des personnalités fortes, mais... Enfin, c'était une expérience hyper enrichissante, mais la moyenne d'âge, je pense, c'était de 55 ans.
Ouais.
J'étais
toute jeune.
J'étais la petite minette qui rêvait plus de Sex and the City, de la ville. Enfin, j'arrivais là-bas, j'étais complètement déconnectée et ça ne répondait pas forcément à ce que j'attendais. Surtout quand tu as 19 ans,
j'étais dépression.
Et donc, je suis partie, mais j'y suis restée quand même un peu plus d'un an. Et donc j'ai été à Saint-Tropez parce que j'ai eu une opportunité pour travailler dans une boîte de tropéziennes. Je dis bon là ça peut être fun, on peut jouer avec les couleurs, avec les matières, tous les cuirs exotiques. Enfin en même temps c'est hyper minimaliste, c'est hyper économique dans le sens où en fait avec une bande c'est des chutes. Enfin on peut vraiment s'éclater sur les compositions. Et en fait encore une fois je me suis retrouvée dans cet atelier avec des personnes qui avaient 60 ans. Alors pareil, pleine d'histoires folles, parce qu'un monsieur un peu original qui avait eu son heure de gloire dans les années 70 avec Brigitte Bardot. Donc c'était marrant, mais j'avais encore pas ce truc.
C'est très particulier, Saint-Tropez, surtout en été.
Exactement, c'est un monde saisonnier qui n'est pas du tout mon
truc. Oui, parce qu'il faut dire qu'il n'y a rien l'hiver là-bas.
Il n'y a rien. Et donc en fait, tu es enfermé dans un atelier où tu travailles comme un dingos pendant 6 mois de l'année. Et après, tout le monde part à Bali, mais enfin, moi, c'était pas du tout mon truc, quoi. Je rêvais du vrai CDI, du... Ce qui, encore, aujourd'hui, ça fait un peu... Les jeunes comprennent pas, mais il y a 10 ans, le CDI, c'était un peu le rêve de tous les étudiants, en fait, qui arrivaient dans la vie active. Bon, aujourd'hui, c'est faire le tour du monde, c'est free. Ouais. Mais voilà, donc c'est vrai que moi, je rêvais de ce CDI. Donc là, ce truc saisonnier, encore enfermé dans cet atelier, enfin... C'était pas top.
Donc tu as décidé, tu as tout plaqué, voilà, tu es venue à Paris.
À l'époque, voilà, donc j'ai eu l'opportunité avec mon copain de l'époque de venir à Paris et enfin, je montais à la ville, la vraie. Pour moi qui suis de Bourgogne, c'était un vrai truc, de Beaune. J'ai eu de la chance parce que c'est une belle région, mais c'est vrai que j'étais pas à ma place du tout là-bas et j'avais pas trouvé non plus ma place à Lyon où j'ai fait mes études, quand je suis arrivée à Paris,
révélation.
J'étais enfin à ma place, je pouvais enfin m'habiller comme je voulais.
Il y a une vraie différence.
Alors, Beaune, il y a des très belles femmes qui ont beaucoup d'allure, beaucoup de style. Enfin, j'ai eu de la chance aussi d'avoir des parents qui faisaient très attention à ça. Mais on est très classique. Ça va être, tu vois, les bijoux Hermès, les petites Tod's. Tous les garçons sont... c'est le congrès de la chemise bleu ciel avec la doudoune bleu marine. C'est très élégant. Mais dès que je m'habillais un peu plus, que je mettais un chapeau un peu trop large ou des chaussures un peu trop hautes, maman me disait, c'est pas possible, tout le monde va te remarquer. Tu vois, donc, j'étais vraiment pas à l'aise. Et même par rapport aux gens de mon âge, c'est-à-dire que les filles, tu vois, de mon âge, il y en a beaucoup aujourd'hui, elles sont mariées déjà avec des enfants.
Tu as quel âge ?
Elles comprennent pas, j'ai eu 30 ans, il y a quelques mois, et elles comprennent pas, on vit pas du tout la même vie, en fait. Donc, j'avais pas vraiment ma place. Et donc, arrivée à Paris... ça y est.
Alors là, tu arrives à Paris, puis
je crée mon compte Instagram.
Ah oui, tu as d'abord créé ton compte Instagram.
Exactement. Et en fait, j'ai été... qui marchait assez bien. Bon, alors, j'ai pas énormément de followers, mais c'est vrai que j'avais tout de suite, même si j'en avais pas beaucoup, des collaborations avec des beaux hôtels, avec des belles maisons. Je me suis dit, c'est cool.
Je pourrais peut-être en faire quelque chose.
En fait, dans un monde que je connaissais pas, que j'idéalisais un petit peu. Et en fait, j'ai rencontré plein de gens. Et c'est vrai que le bouche à oreille dans ce milieu-là, c'est que ça. Et un jour, j'ai donc rencontré Pierre Cauchois, qui m'a invité dans l'agence Douzal, qui est donc une agence de presse à Paris qui a 20 ans. Et il commençait l'influence. Donc, il m'a invité, il me dit, écoute, on va te présenter tous les attachés de presse, on va te présenter nos clients. Et moi, c'est vrai que par contre, le monde des attachés de presse, c'est quelque chose que je connaissais pas du tout.
Oui.
Parce que quand t'es pas dans le milieu, tu dis attaché de presse, relations publiques, surtout moi venant de Bourgogne, c'était un monde qui était complètement... Et en fait, ils m'ont invité à découvrir un hôtel qui est magnifique, le Royal Champagne, que je te recommande, si jamais, pour une escapade avec ton amoureux. Et en fait, j'ai vu ce monde, cette agence, avec plein de gens qui ont mon âge, qui étaient très stylés, très différents, tous, des piles de magazines partout, une déco. J'ai trouvé ça fascinant, en fait. Et la vie fait qu'une semaine après, Pierre m'appelait en me disant, bon, écoute, on cherche quelqu'un pour diriger le pôle influence. Est-ce que ça t'intéresse ? Et puis, je suis jamais repartie de chez Douzal. Donc, c'était il y a 4 ans et demi. Et donc, voilà.
Ça concerne en quoi ? Est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs ton métier ?
Alors, en fait, quand on est dans une agence de presse, maintenant, donc, on a vraiment un pôle digital et relations publiques. Donc, on a une agence qui... On veut vraiment une communication 360 parce qu'on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, l'influence, en fait, c'est vraiment... une énorme part de marché en communication. C'est énorme.
Mais il y a surtout quasiment plus de presse.
Exactement. C'est un métier qui a vraiment évolué. Alors, je pense qu'il y aura toujours de la presse parce qu'il y a quand même toujours ce prestige d'avoir pour un client un beau papier dans un beau magazine. Mais les papiers se réduisent. Les annonceurs sont de plus en plus généreux et de plus en plus nombreux. Donc, c'est vraiment de plus en plus compliqué de décrocher des papiers. Et puis, on se dirige aussi plus vers une presse web. Mais on s'est rendu compte surtout qu'Instagram était la première barre de recherche avant Google. Donc, il y avait un vrai travail à faire avec Instagram. Et moi, j'ai vu une différence de fou en arrivant avant le Covid. Et puis après, le Covid, tous les honoraires ont été redirigés sur le digital. Ça a été une période où ça nous a prouvé aussi que vraiment l'influence, c'était le nouveau business à conquérir. Et ça a bien marché. Donc, en fait, voilà, on rentre en contact avec des influenceurs, tout comme les attachés de presse le font avec d'autres journalistes, en fait. On leur explique les produits, on leur vend le concept. Et ensuite, on essaie de négocier des contrats. Donc, on a de la chance quand on arrive à faire du non rémunéré, en tant qu'agence et marque. Mais ayant la double casquette, je sais très bien qu'en fait, voilà, les gens ne travaillent pas gratuitement, ils ne payent pas leur loyer avec des produits.
Ça, c'est bien de le dire.
Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes clients. Et en même temps, on a des très beaux clients à l'agence et donc on ne peut pas non plus rémunérer les gens pour aller dans des beaux hôtels. Donc, on essaie de trouver le juste milieu. Mais donc voilà, donc on fait vraiment la relation influence. Et on a aussi une partie création de contenu, ligne éditoriale, où on va proposer à nos clients de faire tout leur shooting photo pour les réseaux sociaux. Maintenant, de plus en plus pour la presse, en fait, ils utilisent nos photos un peu plus au sens large. Et en fait, voilà, on va faire toute leur ligne éditoriale.
Il y a des newsletters aussi, vous proposez des trucs comme ça?
Non, pas vraiment, trop. Parce que ça, c'est plus dans le... Nous, on va vraiment être dans l'image, en fait, de la vitrine. Enfin, le compte Instagram d'une marque, c'est sa vitrine. Quand on voit des maisons qui ont un produit de fou et le compte Instagram ne suit pas derrière ou les photos ne sont pas qualitatives, ça dessert complètement la marque. Donc voilà, on propose en plus cette
partie toute esthétique. Exactement. Alors, beaucoup de professionnels pensent que c'est la fin de l'influence. Qu'est-ce que tu en penses?
Non.
Ou ça va changer,
peut-être? Ça va changer. Il y a toujours eu l'influence, en fait. C'était juste véhiculé d'une autre façon. Je pense que Instagram, alors tout le monde compare à oui, Facebook, maintenant c'est nos parents, alors qu'avant, nous, c'était notre. Enfin, on ne faisait pas de business sur Facebook. Mm. C'est juste qu'en fait, on a redirigé. Enfin, ce n'est pas du tout le même secteur, même. Mais encore une fois, TikTok, bon, moi, je ne suis même pas dessus. On va dire, je veille, bien sûr, c'est normal, c'est mon travail, on le propose de plus en plus à nos clients. Mais quand tu es haut de gamme, luxe, c'est-à-dire que pour le moment, la clientèle, la cible est encore trop jeune pour pouvoir faire du business sur TikTok. Et on se rend compte que sur l'influence, il y a tellement les vidéos, les photos, les stories, en fait, c'est tellement large que c'est beaucoup plus facile d'adapter des collaborations en fonction des profils et des marques, ce qu'il n'y a pas sur TikTok. Donc, c'est pas la fin.
On sent la passionnée. Hein.
Ah oui, j'adore ce que je fais.
Quel est ton style?
Moi, je dirais classique quand même. Je suis une grande collectionneuse de chemises. Donc, chemise bleu ciel, blanche, bleu marine, je trouve que c'est un peu la base. Un jean bien coupé. Et je suis très mocassin. Enfin, sinon, j'ai des sacs intemporels, donc je suis plus dans les accessoires que dans les vêtements. Même si je suis une fan de paillettes. Donc, dès que je peux, j'en mets. Mais voilà. J'aurais resté classique.
Tu l'as trouvé ou tu penses l'avoir trouvé ou tu sais que tu vas évoluer?
Je pense l'avoir trouvé. Enfin, je mets encore des vêtements que j'avais en sixième. Donc, je pense que. Donc, je pense que mon dressing n'a pas changé. J'ai des pièces que ma maman m'a données, il y a plus de 10 ans, même 15 ans, qui n'ont absolument pas bougé. Je prends toujours autant de plaisir à les porter. Donc,
est-ce que tu peux décrire la façon dont tu es habillée pour venir chiffonner avec moi?
J'ai une chemise bleu marine en popeline, un peu oversize, un bermuda en jean noir et plein de gris-gris autour du cou.
Et dans les pieds?
Des petites sandales Hermès à talons dorés.
Voilà. Donc, tout dans l'accessoire, comme je disais.
Voilà, exactement.
Tu passes plus de temps dans ta salle de bain ou devant ton dressing le matin?
Dans la salle de bain. Le dressing, avant même de me lever, je sais exactement ce que je vais mettre. Bon, parfois, je me fais un peu piéger par la météo, du coup. Mais voilà, vu que c'est très classique et en fonction des rendez-vous que j'ai, souvent, je choisis les chaussures que je veux mettre. Et en fonction de mes chaussures, je choisis la tenue.
Ah oui, toi, l'accessoire, c'est vraiment la base.
Ah oui, c'est la base.
Donc
le sac.
D'abord, la chaussure. Exactement. Et est-ce que tu mets des talons pour te donner plus confiance en toi ou pas du tout?
Tout le temps, pratiquement. À part s'il pleut et donc je sors les Weston parce que c'est tout terrain. Je suis pratiquement tout le temps en talons. Et même certaines personnes me disent « Mais attends, j'avais jamais remarqué que t'étais si petite, en fait. » Dès que je suis à plat, ils me disent « Enfin... »
Ah donc, c'est pas... Quel est le vêtement qui te donne confiance en toi?
Ben, moi, je trouve qu'une une belle chemise... Alors, bien repasser, je vais dire ça, moi qui ne repasse pas mes vêtements, les gens qui me connaissent vont dire, enfin, voilà. Mais quand on a une chemise qui est nickel, parce qu'il y a des gens qui mettent des chemises, mais le blanc n'est plus blanc, enfin, voilà, c'est le col, il est tout déglingué, voilà. Donc, je trouve qu'une belle chemise, quand on a un pantalon ou même un jean, en fait, qui nous va bien, on est, des chaussures avec un petit talon ou un peu de drôle à paillettes, ou voilà. Je trouve qu'on a une... Enfin, on peut aller partout, dans le sens où on est passe-partout. C'est élégant, c'est intemporel, et que ce soit pour des photos, pour un rendez-vous, pour après un apéritif le soir, je trouve qu'on est vraiment caméléon.
Alors, tu me disais que ta maman avait tendance à te dire « Surtout, n'en fais pas trop, on va te remarquer ». Qu'est-ce que tu penses maintenant que tu vis à Paris du regard des autres?
Alors, j'en ai plus rien à faire. Par contre, j'ai vu que
j'avais... Sors du cœur.
Ah ouais, non, vraiment, moi, le regard des autres, c'est un truc qui, déjà, de un, m'a jamais touchée. Et puis, alors, maintenant, à Paris, enfin... Souvent, d'ailleurs, les personnes qui se permettent de me faire des commentaires, j'ai envie de leur dire, mais enfin, est-ce que je me permettrais, moi, de te dire, enfin, là, tu déconnes complet sur ta tenue? Non. Donc, je pense que c'est chacun pour soi. Si tout le monde est heureux dans ses vêtements, mais tant mieux. Mais j'ai vu que j'avais vieilli, quand même, parce que j'ai repensé à ma
maman.
Oui, ma
peau.
Non, mais on voit qu'il y a un vrai décalage de génération. C'est-à-dire que moi, même quand j'avais 20 ans, même pas, et que je m'habillais un peu extravagant ou trop sexy... au goût de mes parents, c'était des robes à l'époque mage, asymétriques, très tubes, en matière un peu élastane, avec des talons hauts. L'autre jour, je suis sortie avec des amis, j'ai vraiment lu les filles de 20 ans aujourd'hui, avec les crop tops. Je me suis dit, ah non, mais là, jamais de la vie, je laisserai ma fille sortir comme ça. Je me suis dit, ah, le coup de vieux.
Et non, voilà. C'est vrai. Et c'est vrai que les jeunes... Moi, plusieurs invités m'ont parlé de ça, que les jeunes filles ne s'habillent plus dans la rue. les jeunes.
Plus du tout.
Bah, c'est un effet de mode, je pense. C'est plutôt.
Ouais, et puis après, si elles assument leur corps, tant mieux, parce qu'il y a trop de filles complexées par. Tant mieux si ça nous fait une génération qui est bien dans sa peau, qui connaît son corps, qui sait la maîtriser. Mais c'est vrai que je me suis fait la réflexion en me disant, bon, ouais, j'ai vieilli, quoi.
C'est pas ton truc.
Non.
Justement, quel est le vêtement que tu ne porteras jamais, à part le crop top?
Un jogging.
Ah oui.
J'en ai même pas pour faire du sport. Non, vraiment, je suis pas du tout sport, même le jean basket. C'est, même quand je suis malade, ça n'arrive jamais. L'autre jour, j'avais l'impression d'être décontractée à l'agence, mais j'aimais quand même bien mon look. Et Amber et Marguerite qui travaillent avec moi m'ont dit, mais on voit que t'es pas en forme aujourd'hui, hein, parce que alors ce look,
ah ouais,
j'étais en t-shirt, jean, Converse, et elles m'ont dit, non mais catastrophique, je vais à mon d'accord. Donc, voilà.
Ah, tu vois, je suis pas la seule à dire que t'es très élégante.
Merci, mais...
As-tu quand même le souvenir d'un fashion faux pas?
Ah bah oui, c'est sûr que j'en ai fait, parce que vu que j'ai testé pas mal mes limites et ce qui était possible, quand j'étais à S-Mode, j'ai fait des trucs qui étaient pas joyeux. Qu'est-ce que j'ai fait qui était... Bah, je pense que je voulais trop suivre la mode, alors que ça ne me correspondait pas. C'est-à-dire des grandes robes bohèmes qui traînent par terre, enfin avec mon 1m58, c'est pas fou, quoi. Des chapeaux qui étaient tellement immenses, où je voulais me la jouer, Jackie Kennedy, où je trouvais très, très élégant, mais finalement très photo, très image, pas du tout adapté dans la rue, quoi. Donc, c'était pas dingue. Et puis, je pense, la robe que je portais pour le mariage de ma meilleure amie l'année dernière, un peu tellement serrée, en fait, que le zip a pété pendant la cérémonie. Donc, non.
Ah, pratique.
Voilà, pas fou.
Où puisses-tu ton inspiration pour t'habiller?
J'irais des magazines, mais des anciens. C'est-à-dire
même pas sur Instagram, toi qui bosses sur Instagram.
Pas du tout. Et pourtant, il y a des filles que j'adore comme elles s'habillent, mais souvent, celles que j'aime, elles sont très minimalistes. Très noir et blanc, alors qu'on sait très bien que dans la vie je le suis pas du tout, vu que je suis quand même un peu obsédée par les couleurs. Donc j'aimerais avoir un dressing très très pur, avec seulement 5 belles pièces dedans. Pas du tout, il est tout serré avec plein de couleurs et d'imprimés. Donc aussi des filles comme Gigi Martin ou Maria de la Orden, mais en fait ce qui leur va ne me va pas du tout, donc je les regarde, ça me fait rêver, mais c'est pas du
tout. C'est intéressant ce que tu dis, ce qui leur va ne me va pas du tout.
Oui.
Donc tu sais ce qui te va.
J'ai essayé d'avoir des tenues très à la Maria. J'adore son élégance, très. Mais moi, je mets des petits chemisiers fermés jusqu'au-dessus, avec un immense serre-tête. Et enfin, je suis Brivante de Camp, en fait. Donc c'est pas glam, quoi.
Est-ce que t'es du genre à arrêter une fille dans la rue pour lui demander la marque de ses chaussures ou
Ah oui, tout le temps.
Ouais.
Comme on me le fait, et du coup, je trouve ça hyper cool de. Après, et c'est pas toujours bien vu. Enfin, je sais qu'une fois, j'ai demandé à une personne et elle m'a dit. Enfin, j'ai vu qu'elle avait été un peu, pas choquée, mais elle n'a pas compris. En plus, elle avait ses écouteurs. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle me veut, elle?
Moi, l'autre fois, j'ai dit à une dame qu'elle avait une très jolie jupe. Ouais. Elle m'a regardée et elle a levé les épaules.
Ouais, les gens ne prennent plus les compliments, en fait.
On est dans une société, c'est ça qui est terrible. Où chopes-tu?
Je ne chope pas beaucoup. C'est-à-dire que j'ai, encore une fois, ce que je disais, j'ai le même dressing, enfin, j'ai des pièces que j'ai depuis ma sixième. J'ai la chance d'avoir eu des belles pièces que ma maman m'a données, et vu que j'en ai beaucoup, bah en fait, je tourne énormément. C'est rare que je mette souvent les mêmes. Enfin, c'est une chance, hein, ça fait vraiment.
Mais t'as des bons basiques.
En fait, voilà, quand j'achète quelque chose, c'est un bon basique. Un beau pantalon noir, ou bleu marine, une belle veste de tailleur. Je me fais plaisir une fois par an avec une très belle pièce. Et en fait, ça fait tourner le dressing, j'ai envie de dire. Sinon, j'aime bien tout ce qui est vintage. Donc, je trouve des pépites dans des friperies.
Tu vas dans quelle? T'as des bonnes adresses de fripes?
Il y en a une vers chez moi qui est très bien. Je suis dans le premier, dans une toute petite rue vers le Palais Royal et l'avenue de l'Opéra qui s'appelle, qui est la rue Villégo. Un super. Bref, c'est une super friperie. Mais dès qu'il faut trop chercher et que c'est un peu trop bobo à mon goût, c'est pas mon. Voilà.
Toi, c'est plus quand même. Pas BCBG, parce que pour moi, t'es non. Pas BCBG.
Merci,
bon chic, bonjour. mais avec une pointe de. Du classique, avec une pointe de fantaisie.
On va dire.
Est-ce que tu suis la mode? Tout à l'heure, tu disais que non. Ah, on la suit.
Je pense qu'on la suit toutes sans faire exprès. C'est-à-dire qu'il y a des tendances, des coupes de jeans qui reviennent ou de pantalons, où on se permet plus de choses, où il y a deux ans auparavant, on se serait dit, oh là là, mais quelle idée, elle est déguisée. Alors. Ça revient à la mode. Par contre, je n'achète jamais quelque chose qui est à la mode. C'est-à-dire que je vois toutes ces petites chaussures entièrement strassées d'une telle marque, style les Prada qu'on a vu partout. Je me dis, ah, elles sont hyper belles, mais je ne les ai pas achetées parce que je savais très bien que c'était fini 2 mois après.
Oui.
Et je ne suis pas du tout pour acheter des pièces que Un jour, j'avais fait un dîner influence et j'avais mis mes Rockstud Valentino, que j'adore, que j'ai en deux couleurs, qui ont plus de 10 ans, en effet, qui, pour moi, n'ont pas pris une ride. Et une influenceuse s'est permis de me dire « Attends, mais c'est complètement has-been. Comment tu as pu sortir ces chaussures ?»
Ah oui, on touche le fond, là.
Voilà, et je me suis dit, en fait,
mais qu'est-ce que tu lui as répondu ?
C'est elle qui n'a rien compris. Bah, j'avoue que j'étais un peu scotchée et c'était un événement que j'organisais moi, donc je ne pouvais pas l'envoyer balader.
Évidemment.
Donc j'ai dû prendre sur moi et je me suis dit, en fait, c'est elle qui n'a pas compris. Mm. C'est-à-dire qu'on n'achète pas du Valentino ou du Prada pour se dire que ça va durer 2 mois en attendant. Enfin...
Mais certaines ne se disent même pas que ça va durer 2 mois. Oui. Elles les revendent.
Exact. Oui,
il y a un vrai marché parallèle. Ça, tu le vois,
oui,
toi aussi.
Évidemment. Mais je trouve ça hyper triste, en fait. Parce que quand on achète, pour moi, dans le luxe, on n'achète pas pour une image. On achète pour un savoir-faire, pour l'histoire d'une maison. Pour un design aussi, enfin, et c'est une belle pièce et je trouve ça hyper dommage de se dire
Et puis si on la garde, il y a peut-être une idée de transmission.
Exactement. Enfin, moi j'ai énormément de chance, ma maman m'a donné des pièces qui sont folles et je suis bien contente qu'elle les ait pas revendues en se disant je préfère leur vendre pour m'acheter le nouveau.
Okay. T'es plus, alors on a compris que t'étais plus chaussures que sacs ou sacs chaussures.
Les deux. Ah, c'est un oui.
Ça tu chopes plus facilement les pareil ou tu chopes aussi en vintage?
Alors, vintage, ça ne me dérange pas d'aller sur Vinted ou Vestiaire Collective, acheter un sac que je veux et voilà. Et même si ça m'est déjà arrivé à l'époque, quand j'avais la chance, encore une fois, que mes parents me payent mon loyer ou mes études, c'est vrai que tout mon argent de poche, et ça allait dans un beau sac, une belle pièce. Enfin, j'ai de la chance d'avoir des belles pièces qui, une fois de plus, ne se démodent pas. Et je l'ai fait tourner, mais de moi-même, c'est sûr que si je veux me faire plaisir, ce sera vers un sac ou des chaussures.
Et si tu devais donner un conseil aux auditrices, ton conseil de mode?
Je dirais d'investir dans une belle pièce, pas parce qu'elle est à la mode et pas parce qu'elle a pris de la valeur. C'est-à-dire quand je vois le prix des sacs Chanel aujourd'hui, les gens qui me disent c'est un vrai investissement.
C'est indécent.
C'est indécent, c'est-à-dire que ça ne vaut pas ce prix-là. Alors que mettre ce prix-là dans un sac Hermès, je ne dis pas que je le ferais, que je le pourrais, mais c'est-à-dire que ce sera exactement le même sac, la même qualité dans 30 ans, comme c'est exactement le même prix et la même qualité qu'il y a 20 ans. Donc, ça, pour moi, c'est une vraie transmission.
Tu as travaillé le cuir, donc j'imagine que tu connais bien aussi les techniques. D'ailleurs, qu'est-ce que tu mets dans ta valise cet été? Puisque tu es l'avant-dernière invitée de Chiffon.
Beaucoup de maillots de bain, de la crème solaire, essentielle, et finalement, pas grand-chose. Des petites robes toutes simples et puis des belles sandales quand même.
Ouais, sandales.
Que des chaussures.
Et sacs. Alors, comment tu fais pour emmener tous tes sacs et chaussures?
Ah, mais je ressemble à une manouche, c'est-à-dire que j'ai une énorme valise, j'ai un panier qui me sert de bagage à main dans lequel il y a mes sacs avec à l'intérieur encore des sacs dedans, voilà, et je squatte un peu la valise de mon chéri, je pense que ça va se passer comme ça. Il n'était pas encore au courant, mais voilà, j'en suis
bien de la prendre. C'est pour ça qu'on s'entend bien, on a un peu le même programme. Et as-tu une icône de mode?
J'en ai pas une, mais je pense qu'il y a plusieurs femmes qui sont très inspirantes, comme des femmes qui maintenant ne sont plus là, et d'autres qui sont bien ancrées dans l'influence, dans notre milieu, et qui sont très rares, mais qui, je trouve, véhiculent un vrai... J'adore Vanessa Seward, je trouve qu'elle est déjà venue plusieurs fois sur le micro, qui a une allure, je trouve, folle. Comme je peux adorer Margot de Fouché, ou trouver ma boss Sophie Douzal, hyper élégante et qui a son style bien à elle.
Elle a un style très coloré.
Hyper coloré, très italien, avec plein de colliers. Mais en fait, il y a qu'elle qui peut porter ça, et ça lui va hyper bien. Comme Catherine Deneuve ou Audrey Hepburn, on doit te les dire, enfin on te les dit d'ailleurs souvent.
Je crois que dans l'histoire de Chiffon, c'est Audrey Hepburn qui est arrivée.
C'est le chic, voilà. Mais Jackie Kennedy, enfin je suis très...
Dans le passé, quelque part.
Ouais, exactement.
Ta définition d'élégance?
Une allure. Ne pas en faire trop. Et c'est plus une démarche, une façon de se comporter qu'une façon de s'habiller, ça c'est certain. Même si quelqu'un qui est habillé carnaval sera tout de suite moins élégant qu'une dame avec une belle robe bleu marine, voilà.
Tiens, à propos de... Tu venais de parler de couleurs. Quelle est ta couleur préférée? Et celle que tu trouves très très élégante?
Le bleu. Je pense que ça va à tout le monde. Soit un homme en chemise bleu ciel ou une femme avec un tailleur bleu marine, ce sera beaucoup moins dur que le noir.
Merci infiniment, Mathilde.
Bah, merci,
Valérie. Je te souhaite un très bel été.
Toi aussi.
À bientôt. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.